Quel plaisir de retrouver notre invité d'aujourd'hui, puisque le sujet commande d'avoir cet invité-là. Son nom, c'est Guillaume Dulude. C'est le fondateur de Psycom. C'est un gars qui détient un doctorat en psychologie et recherche. Salut, Guillaume Dulude!
Allô, ça va bien?
Ça va bien, puis à chaque fois que je te parle, t'es jamais au Québec, t'es tout le temps à l'extérieur, et ça me surprend tout le temps la qualité audio qu'on est capable d'avoir aujourd'hui en 2025. De temps en temps, t'es en Amérique du Sud, puis là, ben, t'es précisément en Afrique du Sud, où tu te prépares pour un périple de 1500 km avec ta conjointe en paramoteur. C'est apprécié que tu sois là, mais c'est hallucinant de voir ça, à quel point on est capable de se jaser comme ça, puis que le son soit aussi bon.
Oui, ah non, mais c'est récent, hein? C'est un privilège. Avant, il y a 2 ans, Starlink, j'avais pas ça, là, 1 an et demi, ça a tout changé là, pour moi, ça. Fait que merci Starlink.
Oui, exact. Le sujet qu'on a choisi de jaser avec toi aujourd'hui, bien sûr, c'est un sujet qui touche la psychologie. On parle de l'apathie, puis j'invite les auditeurs à ne pas aller googler apathie et regarder les symptômes, parce que certains d'entre vous allez vous auto-diagnostiquer, et c'est à ne pas faire. On va parler d'apathie parce que semblerait que c'est un des sujets qui est le plus googlé là, sur Internet présentement. Pourquoi ça intéresse tant que ça, ce sujet-là, l'apathie, cette maladie-là, si on peut l'appeler ainsi, Guillaume?
Je pense que les gens se rendent compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Peut-être qu'il y a plus que ce qu'ils pensent. Peut-être qu'il y a plus que ce qu'ils vivent en ce moment. Peut-être qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent. Peut-être qu'ils ne sont pas la version la plus développée d'eux autres. Donc, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi la réponse, mais si tu dis que c'est parmi les plus grandes recherches, ben c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils pourraient être une version beaucoup plus énergique d'eux-mêmes.
C'est quoi exactement, Guillaume, peut-être pour les gens qui ne savent pas l'apathie? Parce que moi, je vais être honnête, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je connais l'empathie, la sympathie, mais je veux dire, l'apathie, ça ne me disait rien pantoute.
C'est pas, je vais t'avouer, là, c'est pas un terme qui est très, très populaire, surtout pas au niveau clinique, puis c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup en psychologie, parce que l'apathie, c'est un terme qui est général. Okay? C'est tellement général que c'est une condition qui est souvent associée à d'autres conditions, à d'autres pathologies. Donc, là, l'apathie, premièrement, ce n'est pas une condition psychiatrique, c'est pas une maladie mentale. C'est un symptôme général qui peut être associé à plein de choses. L'apathie, c'est le fait d'avoir très peu d'énergie, peu d'envie, mais pas en souffrir nécessairement. C'est comme être un peu mou, un peu vide
désabusé?
D'énergie.
Ça serait-tu un bon mot? Désabusé, peut-être?
Oui, une personne désabusée va être apathique, oui. Pas le goût d'entreprendre quelque chose, relativement un sentiment de vide, mais pas de détresse, c'est pas une dépression. C'est une forme neutre, si je peux dire. Oui, neutre, c'est mieux, ça, oui. C'est plus la version neutre de toi.
Et c'est pas, je dis de même.
Mais est-ce que ça se peut que les gens se posent énormément de questions concernant l'empathie parce que des fois, on est comme désensibilisé au malheur de certaines personnes? On s'en veut des fois d'entendre quelque chose à la radio ou encore d'écouter quelque chose à la télé. On écoute les nouvelles, exemple. Il arrive une tragédie dans le monde, puis on dirait qu'on ressent plus rien tellement qu'on voit tout le temps de ces patentes-là. Fait que c'est normal des fois de se dire, mais pourquoi je ressens plus rien? Pourquoi j'ai l'impression que je suis mort en dedans quand j'ai ce type de nouvelles-là qui arrive à moi? Ou tu as un ami qui, normalement, t'es toujours bien entendu avec lui, puis du jour au lendemain, il te fait part de ses malheurs, sa séparation ou la perte d'un enfant, puis toi, tu ne ressens plus rien.
Ça ne te fait pas un pli.
Tu te sens mort. Ça doit être stressant de se sentir comme ça, Guillaume.
Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tout le monde. Des fois, là, on est un petit peu, comme on dirait là, dans le jargon de psycho, déconnecté des émotions un peu. Puis il y a des phases où tu n'as même pas assez d'énergie pour ressentir des émotions toi-même. Fait que tu n'auras pas assez d'énergie pour ressentir de l'empathie en plus, puis en plus ressentir tes émotions. Donc, des fois, il y a une fatigue, OK? L'autre chose, c'est l'habituation. C'est-à-dire que si tu es confronté au même genre de stimuli stimuli continuellement et continuellement, par exposition, sans arrêt, tu vas avoir un effet de désensibilisation. Donc, si tu regardes les mêmes tragédies, puis tu te bombardes de tragédies sans arrêt sur toutes tes applications à journée longue, ton cerveau, il prend ça comme n'importe quel divertissement. Il n'y a plus de connexion avec la réalité de ça. C'est un divertissement comme un autre. Puis on est dans un monde où on est bombardé de stimuli 24 sur 24. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que le cerveau vive plus d'affaires. On va s'attendre à ce que le cerveau vive moins d'affaires.
Ça arrive quand, ça, mettons, dans ta vie, l'apathie? Y a-t-il un déclencheur principal?
Non, parce que l'apathie, comme je disais tantôt, c'est quelque chose, c'est un symptôme général. Ça peut être parce que tu es vidé, tu es fatigué, tu as une grosse semaine. Tu vas être apathique à un moment donné. Si tu es en dépression majeure, tu vas être également apathique. Mais là, le problème, c'est la dépression majeure. Il y a d'autres façons d'être apathique, c'est-à-dire si dans ta vie, tu n'as jamais été stimulé, tu n'as jamais relevé de défi, tu n'as jamais voulu quoi que ce soit, on ne t'a jamais poussé à te sortir hors de ta zone de confort, on ne t'a jamais dit « Hey, ça, tu sais que tu pourrais l'avoir, ça, si tu veux travailler là-dessus. » S'il n'y a rien là en avant de toi, si tu n'as aucun désir, puis si tu as même oublié que tu peux désirer quelque chose, l'apathie est ce qui te guette, c'est-à-dire une version inébranlablement neutre de toi-même. Et ça, c'est une autre affaire qui est plus générationnelle.
Ah oui, c'est générationnel.
Oui.
Pourquoi?
Ouais.
Peux-tu développer là-dessus? On dirait que ça pique ma curiosité.
C'est parce que si tu n'utilises pas tes émotions, si tu ne prends pas de risques, si tu ne vas jamais dans la douleur, si tu n'oses pas te vulnérabiliser, si tu ne fais pas l'expérience de nouveauté, si tu ne te connais pas, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vas te stimuler avec des stimulants qui sont externes, des divertissements. Et en plus, on est dans une culture de l'hypersécurité. Donc là, c'est comme, il faut toujours être en sécurité tout le temps. Donc ça, c'est la valeur extrême, la sécurité. Bien, c'est parce que le problème, c'est qu'on enseigne mal la sécurité, parce que là, on lie l'insécurité avec le danger, les émotions négatives. Fait que là, on a tout réglé ça, on ne veut plus rien de ça. OK, mais c'est parce que tu arrêtes de vivre. Donc, ça fait en sorte que tu désengages des parties de cerveau qui sont supposées être là pour alimenter tes émotions, te faire bouger vers l'avant, te faire un peu peur, te faire désirer des affaires, te faire réfléchir. Mais si tu désactives ces processus-là par inaction, bien, c'est comme n'importe quelle machine, c'est pas utilisé, donc ça se désactive tranquillement. Fait que tu es une version, pas en détresse, mais comme tu es comme un genre de méduse, mettons.
Oh mon Dieu, ça me... C'est bon, être troublant le matin, ça.
Méduse, c'est très apathique. Tu sais, c'est pas, tu sais, tu dis pas comme « Hey, j'ai la fougue d'une méduse. » Tu sais.
Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire.
Le vent va par là, la méduse va par là, le courant va par là. Tu sais, mais sa vie, là, ça pop-up. Tu sais, mais c'est pas... Y a pas, c'est pas une détermination. Là, le mot détermination puis un mollusque, c'est pas, ça va pas ensemble nécessairement. Mais l'apathie, c'est tu vis, il n'y a pas de détresse, mais c'est pas toi qui détermine où tu vas. Là.
L'image est tellement forte, t'es un mollusque. Je sais pas si ça vous parle ce matin. Là.
Mais un mollusque, c'est quand même musclé. Hein? C'est mou, mais c'est quand même musclé. Une méduse, ça, c'est vraiment là, un niveau supérieur d'apathie, selon moi, là, dans une hiérarchie... de mou, là, mettons.
voilà. On continue à parler d'apathie. Hey, on fait apathie 101 pour les nuls. Là. J'ai des questions un peu bizarroïdes. Ben, t'es habitué avec moi, anyway, Guillaume Dulude. Est-ce que les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, des enfants adoptés, je sais pas moi, un enfant sur le continent africain adopté par des parents américains, il y a comme un sentiment d'abandon de ta famille biologique. Là, t'es aimé par une famille qui t'adopte et tout ça. Mais est-ce que ces enfants-là, ou bien les enfants de la DPJ, peuvent développer un fort sentiment d'apathie?
C'est compliqué comme question.
Est-ce que c'est un traumatisme émotionnel? C'est un choc affectif grave là, quand tu as été abandonné par deux êtres humains qui t'ont mis sur Terre? Là.
Mais ça dépend beaucoup de l'âge. La première chose qui me saute à l'esprit, c'est l'âge. Tu as des âges critiques. Tu sais, il y a des âges où l'enfant va même pas s'en rendre compte tellement que le bébé y est plus ou moins conscient. Donc, il va avoir des répercussions moins grandes si tu n'es pas dans une fenêtre critique de conscience. Donc, ça dépend dans quelle fenêtre ça arrive. Ça dépend des traumas que tu as eus avant l'abandon. qui vont être mixés avec ça. Ça dépend le bagage que tu vas traîner. Donc, c'est un historique très, très personnel, ça. Mais une des réactions de défense, c'est le retrait. Et le retrait, ben, ça peut être associé à de l'apathie. Mais dans ce cas-là, c'est plus une stratégie d'évitement de menaces ou d'évitement de futurs abandons. Fait qu'on minimise les risques futurs d'être rejeté. Donc, le retrait, c'est l'apathie, je dirais moins que c'est de l'apathie, je dirais le problème. C'est plus un enjeu de retrait là, pour ce genre d'enfant-là.
Et j'ai souvent entendu parler, Guillaume, de dissociation. On m'a souvent dit, mettons, quand justement les émotions sont trop fortes, par exemple le deuil ou tu vis quelque chose de traumatisant dans ton quotidien ou t'es sur le bord d'un burn-out, tu te dissocies un peu pour être capable de survivre, là, t'sais. On m'a déjà parlé de la dissociation. Est-ce qu'on est un peu dans le même angle quand on parle d'apathie?
Je pense que ça va varier de cas en cas parce que l'apathie, ça peut être associé à plein de conditions. Fait que ça peut être associé à des dissociations, mais pas nécessairement. T'sais, l'apathie vient pas toujours avec un trouble psychologique grave hein, autour. Ça peut être une phase, ça peut être juste un fonctionnement qui est un petit peu sous-stimulé, ça peut être un manque d'objectif, une fatigue. T'sais, il y a plein de choses qui créent une apathie, mais la dissociation, là, pour une dissociation, là, généralement, ça prend une grosse émotion négative. Là. Ça prend de quoi qui fait mal. Sinon, il n'y a pas la dissociation qui a pour but de survivre dans un quotidien relativement normal, le plus normal possible. Ça vient avec le fait de faire une scission entre quelque chose qui est très troublant ou très douloureux.
Fait qu'en gros,
L'apathie, oui.
ben, j'allais dire, fait qu'en gros, c'est momentané. Je pourrais dire que je suis complètement apathique à Yannick ce matin.
Oui, mais déjà là, apathique à quelque chose, tu n'es déjà plus dans l'empathie, tu es beaucoup trop dans l'action, là.
OK.
Parce que là, il y a une cible. L'apathie, il y a vraiment une neutralité là, dans ça. C'est Yannick, pas Yannick. C'est que ça, il n'y a rien qui te dérange. L'empathie, c'est, tu sais, là, méduse, là. Tu sais, il vente à gauche, droite, pas
Je
grave, il n'y a
garde
pas de
l'image.
peur. Une méduse apeurée, là, elle fera pas un geste différent qu'une méduse concentrée. Il n'y a aucun flottement différent.
Mais comment
Donc,
tu
ça sera pas.
sors de ça? Parce que de ce que je comprends, c'est un état qui prend un peu le relais sur toi, puis je dis, tu te rends-tu compte que tu es apathique dans la vie ou faut que quelqu'un brasse la cage un peu?
Non. Je pense qu'au début, tu t'en rends pas compte. Parce que tu souffres pas tant que ça. Puis, il y a un relatif contrôle satisfaisant de ça. C'est-à-dire, il m'arrive rien. Il y en a d'autres qui souffrent, mais moi, il ne m'arrive pas grand-chose. J'ai-tu le goût de souffrir? Non, pas tant que ça. Donc, c'est très addictif, l'apathie, dans un sens. Parce que tu as un sentiment d'être immunisé contre n'importe quoi qui va t'ébranler. Donc, tu es super gagnant. Jusqu'au moment où tu te dis, ouais, mais c'est plate aussi, là. Puis, je vois des autres qui ont plus de fun. Puis, je suis pas en couple. Puis, je date pas. Puis j'ai jamais eu le cœur brisé, puis j'ai pas le goût d'avoir le cœur brisé, mais j'aimerais ça être en amour peut-être. Peut-être que j'aimerais ça avoir des relations sexuelles. Peut-être que j'aimerais ça avoir de l'intimité avec quelqu'un. Tout ça relève de la prise de risque. Mais les personnes vraiment, vraiment apathiques n'ont aucune idée de comment faire ça.
Okay. Est-ce que
Et
quelqu'un qui
donc, ça.
souffre, est-ce que quelqu'un qui souffre d'apathie pourrait ne pas ressentir d'amour pour ses enfants? Savoir que c'est normal de ressentir de l'amour, mais de se rendre compte que mes enfants soient là ou pas là, moi, ça me dérange pas pantoute. Ça doit être cruel en tant que parent de ressentir ça pour une des premières fois de ta vie. Tu sais. Il y a un signal à ce moment-là là, que ça va pas.
Si un parent ressent plus rien pour ses enfants, t'sais, la première chose qui me trotte à l'esprit, c'est qu'il y a une fatigue à quelque part, là. T'sais, il y a quelque chose qui se passe. Comme je disais tantôt, l'apathie, c'est un symptôme, mais c'est pas la cause d'un problème, l'apathie. Tu ne traites jamais l'apathie directement. L'apathie, c'est la couche externe que tu regardes qui indique que peut-être qu'il y a quelque chose sous-jacent à ça. Donc, si un parent se sent plus déconnecté de son enfant, ben, puis il se sent apathique, il va falloir gratter un petit peu plus large sur comment ça s'est déclenché, ça fait combien de temps, qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des événements majeurs, y a-t-il des perturbations. Donc, tu sais, faut creuser un peu.
OK. Est-ce qu'il y a une on sait qu'il y a une corrélation entre les commotions cérébrales puis les dépressions. Ça a souvent été rapporté, ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une... Tu sais, des gars qui ont eu des bonnes carrières au hockey, au football, des gars qui ont fait de la boxe, gars et filles qui ont fait de la boxe, qui ont eu de multiples commotions cérébrales, est-ce qu'ils peuvent développer de l'apathie?
Ils peuvent développer une apathie suite à une condition. Par exemple, une dépression, oui. Mais... Tu sais, l'apathie vient jamais sans une cause. L'apathie est toujours un symptôme. Donc, c'est pour ça de dire je fais de l'apathie, ça veut rien dire. C'est comme j'ai le nez qui coule. Ouais, mais j'ai le nez qui coule. C'est quoi exactement?
C'est un rhume.
C'est une allergie. C'est un nez qui coule, c'est un symptôme, mais tu peux pas traiter un nez qui coule. Un médecin ne va pas dire, bon, tu as un problème de nez qui coule. Tu sais, c'est un symptôme, ça. C'est pour ça qu'il faut tout le temps remonter à des causes pour comprendre cette apathie-là.
L'apathie est un symptôme de la dépression, genre?
Peut être un symptôme de la dépression, mais ce n'est pas nécessairement associé à la dépression, puis ce n'est pas nécessairement associé à aucune psychopathologie. Ça peut être... Un symptôme d'une inactivité ou d'une forme d'ennui ou d'une sous-stimulation chronique. Ça peut être aussi en lien avec l'apathie.
Ça peut-tu venir de l'extérieur? Je m'explique, mettons, un médicament. Tu sais, les antidépresseurs, on a déjà entendu ça comme quoi il y en a que ça gèle, qui deviennent un peu justement sans émotion, qui deviennent mollusques. Est-ce que ça peut devenir justement venir d'ailleurs?
Oui, ben oui, tu as des médicaments qui, avec un mauvais dosage, ou des fois, ça peut être un beau dosage pour un patient, mais l'effet secondaire, c'est que l'apathie est grande. Elle se sent plus apathique, elle a moins d'énergie, ressent moins de choses, veut moins de choses, a moins de réactions émotionnelles. Donc, oui, elle est plus, on dirait, flat émotionnellement. Elle est flat. Elle souffre moins. Donc, OK, on voulait régler ça. La contrepartie, c'est qu'elle est très, très flat. Donc, des fois, il peut y avoir une certaine apathie suite à une médicamentation.
Quel est le signal chez quelqu'un qui croit faire de l'apathie? Bon, tu as parlé là, de ce que ça peut apporter l'apathie dans notre vie. C'est combien de jours, combien de semaines je dois attendre avant d'aller consulter un médecin parce que je ressens plus rien, j'ai plus de bonheur, j'ai tendance à toujours vouloir être dans mon coin puis m'éloigner de tout le monde. C'est le temps des fêtes, ça me tente pas, je veux rester dans mon chalet puis voir personne. C'est combien de jours, à peu près? Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines avant de consulter un médecin?
Bien, la première chose qu'il faut faire, c'est faire un diagnostic différentiel. C'est-à-dire là, c'est quoi la condition sous-jacente? Est-ce que c'est une phase qui est plus dure où tu as besoin d'être dans ta bulle? Ben, ce n'est pas une condition pathologique de vouloir être dans sa bulle, là. Donc, il faut dire, est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Ou, parce que là, tu as des critères d'inclusion pour scorer une dépression. Donc, c'est ce que le médecin, le psychiatre ou le psychologue va regarder. C'est les critères d'inclusion pour, par exemple, une dépression majeure. Donc, le médecin ou le spécialiste va te questionner pour essayer de valider les critères d'inclusion. Mais si tu ne les valides pas, les critères d'inclusion, comme par exemple dans la dépression majeure, il faut que tu en coches au moins 5 sur les 9, par exemple. OK? Mais si tu n'en coches pas 5 sur les 9, on ne peut pas te donner un diagnostic de dépression. Tu n'as pas la dépression. Ça t'en prend au moins 5 sur les 9. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de dépression. Ça veut dire que oui, tu es apathique. Oui, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'aide. Oui, sûrement. Mais ce n'est pas une psychopathologie. Fait que la première chose, c'est qu'il faut écarter les diagnostics. Puis ça, quand on commence à s'en inquiéter, aussitôt que ça commence à nous inquiéter, moi, j'inviterai les gens à consulter. Si vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je ne me reconnais pas, ou j'aime pas ce qui se passe, puis je n'ai pas le contrôle là-dessus. Moi, je recommanderais aller chercher un diagnostic différentiel, au moins valider que ce n'est pas quelque chose qui est plus sérieux. Ça, c'est la première affaire. Après ça, bien, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire. Donc, vous allez avoir besoin peut-être d'un coach, d'un thérapeute, d'un psychologue pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec vous. Parce que, tu sais, c'est pas normal. Quand tu veux t'isoler, tu veux aucune expérience dans ta vie, tu veux plus aller vers l'avant, mais tu ne pourras pas passer les prochaines années comme ça.
Est-ce que les... je ne te poserai pas cette question-là. Wow, tiens, les jeux vidéo, peuvent-tu nous désensibiliser à la vie ordinaire? sais, je regarde des fois mes gars jouer à Fortnite. Je sais pas si tu connais Fortnite, Guillaume Dulude, mais mes gars ont vraiment l'impression qu'ils font partie intégrante du jeu Fortnite. Puis là, ils achètent des habillements, puis ils sont contents d'avoir, exemple, un nouveau sabre ou un nouveau parachute. Puis ils semblent s'intéresser de moins en moins, quand ils jouent régulièrement, là, ils semblent s'intéresser de moins en moins à la vie extérieure, la vraie vie. Est-ce que les jeux vidéo peuvent contribuer justement à une certaine désensibilisation? Il y a d'autres jeux plus violents. Moi, mes gars, ils ne jouent pas à GTA, là, qui est un jeu extrêmement violent. Mais quelqu'un qui joue régulièrement à GTA, où il y a d'extrême violence, est-ce qu'il peut développer une insensibilité par rapport à la vie ordinaire de quelqu'un? Je ne sais pas, moi, un vrai être humain qui se fait écraser dans la rue.
Alors, je vais te dire ce que je sais de la littérature, OK? C'est pas parce que, mettons, tu joues à un jeu vidéo où tu tues des gens que dans la vraie vie, ça fait plus rien tuer des gens. OK? Là, cette espèce de lien-là, c'est pas vrai, ça. OK? Donc, on se comprend là-dessus. C'est pas parce que tu fais des actions dans un jeu vidéo que les mêmes actions te font absolument plus rien dans la vraie vie.
Mais c'est bon qu'on en parle, parce qu'il y a eu des études il y a plusieurs années où on essayait de faire une corrélation là-dedans. Alors, les jeunes sont plus violents parce qu'ils jouent à des jeux vidéo.
T'sais? Mais tu sais, l'armée américaine, ils ont fait une étude sur les pilotes de drones. Puis les pilotes de drones développent moins de problématiques après leur carrière que ceux qui étaient directement en théâtre de guerre puis qui voyaient le résultat des actes qu'ils avaient posés pour se libérer de la menace, exemple. Donc, les pilotes de drone n'avaient pas le choc post-traumatique que les soldats en théâtre de guerre pouvaient avoir. Parce qu'eux sont dans leur bureau, sont avec leurs manettes, font voler les drones, sont à distance, pèsent sur le piton à l'endroit demandé, puis la job est faite, puis merci, bonsoir, on passe à une prochaine cible. Fait que c'est de là ma question, là.
Oui. Ce qu'on connaît, c'est que plus tu joues à des jeux vidéo, plus tu passes de temps devant un écran. Okay? Parce que les gars vont jouer à des jeux vidéo ou passer du temps sur la porno. Les filles vont être davantage sur les médias sociaux. Okay? Les addictions sont différentes chez les jeunes hommes et les jeunes femmes. Peu importe, les corrélations sont les mêmes et les impacts sont les mêmes dans la vie réelle. Plus tu passes de temps sur ces interfaces-là, plus tu te retires de ces activités réelles dans la vie et moins les activités dans ta vie, dans la vie réelle, te stimulent ou t'intéressent. Donc, le facteur virtuel, peu importe le jeu ou l'interface, là, c'est majeur. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, je vais essayer de traverser la Namibie avec ma femme. Puis une des choses qu'on va faire, c'est un documentaire pendant qu'on va voler. Puis on va essayer de se demander, parce qu'on va visiter des communautés, tu sais, hyper éloignées, là, tu sais, des villages hyper éloignés. Puis on va les visiter, puis un petit peu comme je faisais dans Tribal. Puis la question de fond est celle-là, c'est est-ce que le futur, où est la place de la physicalité dans le futur? Et honnêtement, je ne suis pas sûr de la réponse. Je ne suis pas sûr que les humains vont continuer à être intéressés à la physicalité, c'est-à-dire la peau, les sensations, les roches à terre. Parce que de plus en plus, les gens peuvent avoir des expériences qui sont tellement proches de la vie réelle, mais sans aucune contrainte. Ça ne coûte rien. Ça fait pas mal, t'as pas d'apprentissage, tu peux pas te faire mal, t'auras pas à être malade, c'est instantané. Tu veux flatter un lion en virtuel, tu vas pouvoir faire ça. Même si tous les lions de la planète disparaissent demain, tu peux pas voir la différence. On s'en va là. Donc là, ça, Yannick, ça vous tente de parler quelque chose de plus hardcore, là. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le désintérêt de la physicalité elle-même qui est trop contraignante et trop souffrante. Donc, si je reviens à ta question, Yannick, plus une personne va sur les jeux vidéo, reste devant un écran, moins elle est motivée à prendre place dans une vie réelle.
Et je trouve ça complètement effrayant.
Et
Pelaye!
Tu sais, moi, j'adore être dans la nature, Guillaume. Mais je pense que j'ai raconté l'anecdote à Audrey. Tu te souviens-tu de notre voyage au Zoo Miller en Beauce, Audrey, que j'ai fait avec ma conjointe?
Ça me dit quelque chose.
La force du Zoo Miller, c'est que tu es très près des animaux. Puis au Zoo Miller, il y a un lion qui est là. Puis le lion, il fait sa propre trail sur le bord de la cage, puis il regarde les gens.
On sait il n'a pas pissé dessus?
On ne sait pas trop à quoi il pense, mais il regarde les gens. Puis à un moment donné, ma conjointe a pris un petit sentier où elle pouvait passer, puis il n'y avait pas personne qui était là. T'sais. Nous autres, on était tous à la même place pour observer le lion, puis elle était avec un petit gars qui l'accompagnait, et le lion s'est reviré. Puis, je pensais pas que les lions pissaient comme ça, Guillaume, là. Mais il a envoyé un jet de pisse directement sur l'enfant puis sur ma conjointe qui a eu de la pisse de lion directement sur les mollets. Je veux dire, ça, cette expérience-là était juste formidable. Était formidable, cette expérience-là. Mais je veux dire, de voir un lion en personne, toi, tu as cette chance-là en Afrique, Guillaume, parce que tu y vas régulièrement, tu es encore là d'ailleurs, mais... Il n'y a rien qui vaut cette expérience-là. Tu as vraiment l'impression que nous, on va peut-être être plus dans le virtuel plus tard pour voir ce dit lion qui, on sait, n'existe pas.
C'est parce que tu sens rien.
Ben oui, c'est ça. Puis ça sent un lion. Là,
les amis, là, je ne veux pas vous briser le cœur. Là, tu touches un point auquel je pense tous les jours.
Ah oui?
Oui, tous les jours. Je me demande, dans... mettons 50 ans, avez-vous une idée d'à quoi ça va ressembler la quotidienneté des humains dans 50 ans? En 2023, ChatGPT a largement dépassé l'intelligence humaine. Les humains ne peuvent même pas accoter au niveau du raisonnement ce que ChatGPT peut faire. Les humains sont impuissants complètement face à la puissance technologique qui répond à tout comme ça. Mais 1 million de fois plus vite que le meilleur que l'esprit le plus rapide des humains en ce moment. On ne peut plus compétitionner et les humains sont de plus en plus sensibles. Les humains veulent toutes les expériences. Les humains veulent avoir accès à tout. Mais la façon de le faire, c'est que tu biaises ton cerveau, tu leurres ton cerveau à lui faire croire que l'expérience est réelle. Comme quand tu rêves. Quand tu rêves, c'est vrai, là. Il n'y a rien de plus vrai qu'un rêve. C'est juste quand tu sors du rêve, tu fais « OK, phew ». Mais quand tu es dans le rêve, il n'y a rien d'autre que le rêve. C'est là où on s'en va en ce moment. Meta est en train de sortir des lunettes que tu n'as plus besoin de dire ou de faire quoi que ce soit pour faire arriver les choses. Ça lit tes yeux. Ça lit tes mouvements oculaires. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Les humains, moi, je ne pense pas que les humains sont intéressés à la physicalité encore. Je pense pas.
Et ça me fait mal
parce que je peux pas accepter ça encore moi-même parce que je le vois pas, ça. Mais j'ai l'impression que la dimension physique, ça pourra pas perdurer éternellement.
Mais tu sais, je veux dire, moi, ça me fascine parce qu'on a 5 sens et le toucher en fait partie. Puis moi, c'est une base dans mon quotidien. Tu sais, tu parles d'expérience, ils ont sorti il y a plusieurs années, on a commencé à parler des shows virtuels, où avec Oculus, là, tu peux aller dans un show virtuel, puis le son est malade, tu comprends, puis ça peut se comparer, puis tu peux bon le ressentir à quelque part, mais je me disais, même si quand je vais dans un show, mettons au Festival d'été de Québec, ça me tape ses nerfs d'avoir le grand tout mouillé suant à côté de moi, ben crime, ça fait partie de l'expérience de sortir, d'être avec du monde, d'avoir du bruit, d'être entouré, cette chaleur-là humaine que tu n'auras pas dans l'expérience virtuelle, même si la musique est bien bonne, tu sais. Puis j'ai comme l'impression que c'est la base de l'humain, ça. Ce toucher-là, c'est de réfléchir ensemble, de se relancer, d'avoir des conversations profondes, de pouvoir se faire une... Tu sais, c'est prouvé qu'une colle de 10 secondes, ça peut changer chimiquement dans ton cerveau le reste de ta journée. Tu sais, j'ai comme l'impression que si on se coupe de ça, ben on est quoi comme individu, mettons?
Je n'ai pas la réponse à ça. Puis moi, il y a une partie de moi qui est 100% de ton bord. C'est-à-dire, moi, là... Je ne suis que dehors avec les animaux, la nature, je fais du camping. Mais si j'essaie de regarder ce qui se passe actuellement, le cerveau génère ces sensations-là. Les fameux sens, c'est juste des capteurs pour générer une expérience qui est transigée par le cerveau. Tu peux la transiger sans les sens. Donc, je sais que c'est une grosse question, là, c'est comme un peu difficile à imaginer, mais... les humains résistent de moins en moins au monde virtuel. Maintenant, puis là, j'ai appris ça la semaine passée. Là, j'ai du monde qui est en tournage avec moi. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Tu sais, quand tu vas sur Internet et tu googles quelque chose, mm-hmm. C'est fini, ça. Tu googles plus, là. Tu demandes à ChatGPT directement. Puis verbalement, là, tu pèses ton application, tu lui dis, puis en parlant, mais tout croche, là, ouais, tu saurais-tu? Et il va te répondre avant 10 pages de choses extrêmement précises et qui fonctionnent. Google, c'est fini. Les humains veulent même pas écrire les mots-clés puis chercher. C'est fini, ça, Google. J'ai appris ça, là,
On est
dernièrement.
dans la facilité, hein?
Ouais, il y a beaucoup de réflexions à faire, puis on aura l'occasion de t'en reparler, Guillaume Dulude, c'est toujours un plaisir. Parmi les autres, bon, tu sais, on parlait de l'apathie tout à l'heure, ce serait le sujet le plus, ben, en fait, la difficulté psychique la plus googlée sur Internet. Deuxième, c'est le stress. Je pense que on n'a pas de surprise là. Effectivement, les gens sont extrêmement stressés, puis ben, c'est la raison pour laquelle il y a des gars comme toi qui existent pour les aider, pour trouver un sens à leur vie. La troisième position, Guillaume, c'est la colère. Les gens sont en colère.
C'est juste par curiosité, où tu as trouvé ces stats-là?
C'est les statistiques qui proviennent de France.
OK, c'est des statistiques françaises, ça.
Exact.
OK. Ah, intéressant. Intéressant. Fait qu'en troisième colère, tu dis.
Ouais. C'est la colère. Les gens sont fâchés, puis c'est quelque chose que peut-être en raison du fait que je suis dans les médias, fait que j'ai comme un biais aussi, là, fait que je retiens ce genre de truc-là. Fâché envers le gouvernement, fâché envers leur situation actuelle, travaillent 40 heures par semaine, Guillaume, ils ont de la misère à subvenir à leurs besoins. Parfois, ils ont besoin d'un deuxième emploi, et ils ont encore de la misère à subvenir à leurs besoins. Beaucoup de colère.
Ouais, c'est drôle, la colère, c'est une émotion qui est vraiment importante puis qui est vraiment puissante, mais faut vraiment que tu saches quoi faire avec ça. Un peu comme l'anxiété, là, c'est une autre arme là, qui agit un peu différemment. La colère, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes formations parce que la colère, c'est un peu de l'énergie atomique. Fait que c'est correct à petite dose et si tu es capable de la diriger à la bonne place. Mais si ça monte trop, ça rase tout, là. Ça fait comme une espèce d'explosion nucléaire, puis ça détruit tout autour. Donc, la colère, c'est comme de l'énergie atomique. Il faut que tu saches comment utiliser ça. La colère, c'est une émotion qui sert à mettre des limites, à protéger des territoires. Donc, une personne qui a pas beaucoup de territoire, qui n'a jamais eu de territoire, saura pas comment utiliser la colère, saura pas comment négocier. Sera pas être capable de tenir son bout, sera pas capable de se faire respecter et va être plus dépendant par rapport aux autres. Donc, la colère sert à faire des lignes dans le territoire. Et il y a des gens qui, dans toute leur vie, n'ont jamais eu de territoire parce que ce sont que des gens agréables ou dépendants socialement. Fait qu'eux, ils existent uniquement s'ils sont approuvés socialement. Le problème, c'est que ces gens-là essaient de dire, j'aimerais ça m'affirmer mieux, mais tu peux pas. Eux, ils peuvent pas, sans développer un territoire, après ça, utiliser la colère, et après ça, ils vont diminuer leur dépendance sociale. Mais tu peux pas. Donc, il y a une structure à ça. Mais la colère, c'est une pierre angulaire des territoires et des relations sociales.
Mais c'est quoi la première étape quand tu es ce genre d'individu-là qui doit créer son territoire? Je demande pour une amie, là,
Il faut que tu commences à investir sur toi, il faut que tu construises des choses sur toi, il faut que tu mettes de l'investissement sur toi. Et lorsque tu vas avoir ça, là, tu vas avoir quelque chose à protéger. Et lorsque tu as quelque chose à protéger, là, la colère arrive pour commencer à mettre des limites. Mais si tu construis rien, ton cerveau n'a rien à perdre. Il va juste perdre l'approbation des autres. Fait que c'est un cercle vicieux. Donc, les gens qui veulent se sevrer de l'approbation sociale puis être plus rigoureux, être plus tough envers les autres, être plus résistant à la critique, la première affaire, ne pas travailler sur les limites tout de suite. Travailler sur implanter des choses dans sa vie, implanter des projets, investir quelque chose qui vaut cher, jusqu'à ce que tu aies peur que quelqu'un les prenne ou te dérange. Là, on commence à jaser parce que là, tu vas être commencé à mettre des limites. Mais tu ne peux pas montrer à une personne qui n'a pas de territoire à mettre des limites. C'est comme un pays qui n'a pas de pays. C'est comme un territoire qui n'a pas de douane. T'sais. C'est comme, t'as pas de vrai pays, là. Un pays, tu as des frontières. C'est ça un territoire. Mais si tu n'as pas de territoire, tu es vagabond. Puis un vagabond n'a pas besoin de colère parce qu'il navigue d'un endroit à l'autre. C'est lui qui va être kické out. Donc, La colère, il faut que ça soit utilisé pour protéger notre investissement personnel.
C'est animal quand même quand tu y penses, hein?
Tu reviens à la base. Ah,
c'est logique, logique, logique. C'est très précis, les émotions. La psychose, c'est très, ça peut être très précis hein, quand on décortique ça.
Guillaume Dulude, là, tu t'en vas traverser le désert de Namibie. C'est 1500 km que tu auras à faire avec ta conjointe en paramoteur. Est-ce que vous avez choisi des sujets d'avance? Est-ce que vous êtes préparé des sujets d'avance pour jaser en haut dans le ciel?
Ben, je te dirais, on est pas mal à jour dans nos sujets, t'sais, parce que je pense que tu me connais un petit peu, j'en laisse pas mal passer. T'sais. Quand il faut discuter de quelque chose, on va discuter quelque chose, puis je ne remettrai pas ça la semaine prochaine. Fait qu'on est, on est très bien tunés, puis on n'a pas accumulé de choses. Par contre, j'ai des conversations à avoir sur notre futur avec ma femme, sur les enfants, sur comment conçoit le futur, l'éducation, les priorités d'éducation. J'ai hâte de lui parler de ça. J'ai hâte de savoir comment on va faire pour être un parent dans les prochaines années, puis qu'est-ce qu'il faut enseigner de plus important, étant donné ce monde-là qui change énormément sur le plan technologique. Ça change quoi sur le plan de la parentalité puis des priorités? Est-ce que les habiletés qu'on montre vont toujours être pertinentes quand l'enfant va avoir 10 ans? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Je ne le sais pas encore. Donc, j'ai hâte de parler de ça avec
Puis
Inès.
comment on se prépare? Parce que là, c'est 1500 km à paramoteur. Moi, je suis un pilote d'avion, donc des vents de face, des vents de travers, des vents d'eau, je connais ça. Puis bien souvent, on s'informe d'avance concernant la météo. En paramoteur, est-ce qu'on doit faire la même affaire?
Paramoteur, c'est un genre de jogging aérien que tu files ça la journée même, si je peux dire. Donc, tu regardes les vents le matin. D'habitude, on vole 2 heures le matin, juste après le lever du soleil, le soir, avant que les vents thermales s'élèvent.
Ouais.
Donc, ça, c'est dangereux en paramoteur. Donc, c'est faut que tu voles quand il y a peu de vent. En gros, c'est ça. Tu peux avoir le vent dans le dos, ses côtés, mais pas plus que 20 km/h, puis pas des rafales plus que 15 km/h parce que ça va être dangereux, puis tu ne pourras pas atterrir ou tu peux crasher, tu peux faire fermer ta voile. Ça, c'est un des enjeux. L'autre chose qui me préoccupe beaucoup, c'est pourquoi personne n'a réussi à traverser le désert de Namibie en paramoteur à date. Donc, il y a eu des milliers de personnes qui ont escaladé le mont Everest, mais c'est une des choses les plus dures au monde. Mais il y a zéro personne qui a fait la traversée en paramoteur. Fait que moi, je me sens un petit peu que je vais avoir une surprise à quelque part où je vais apprendre pourquoi personne ne l'a fait. Donc, là, d'avance, il faut prévoir. C'est comme un peu Mad Max, OK? Il faut prévoir le gaz et il faut prévoir l'eau. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'eau. Donc, d'avance, il faut que j'aille demander à des gens d'enterrer à des endroits secrets dans le désert des tanks de gaz et d'eau. Il faut que je me rende là. Et donc, si j'ai pas ça, on meurt là, dans le désert.
Mon Dieu
Fait que tout.
Seigneur. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on te parle, Guillaume, mais tu crées de l'anxiété un matin, là.
Ouais, non, ça me stresse pour vrai. Ça va être tough. Je ne sais pas comment exactement on va faire, mais.
Mais ça doit être pour ça que les gens le finissent pas. Probablement qu'à un moment donné, il manque d'une
Ouais.
de ces deux choses-là,
Mais
tout simplement.
quel beau défi quand même.
Hey. Ouais. Fait que là,
Ah
t'es
oui, c'est.
parti combien de temps? Est-ce que tu évalues, on sait-tu combien de temps ça va prendre, tout ça, ou?
Ben, je me donne 1 mois. 1 mois pour le faire.
Oh.
C'est sûr que, tu sais, si ça va bien, puis on a du gaz, puis on a de l'eau, puis on est en santé, puis on crash pas, on peut le faire en 14 jours. Tu sais, tu fais quelques centaines de kilomètres par jour, mais d'habitude, c'est impossible qu'il n'y ait rien qui va se passer. Il va y avoir comme trop des problèmes à tous les 2 jours que, tu sais,
Pourquoi tu fais
c'est de même.
ça, hein, Guillaume?
C'est parce que quand tu t'en vas là, tu vas découvrir des parties de toi auxquelles tu n'as pas accès. C'est impossible d'y avoir accès si tu te rends pas là. Donc, pour se rendre là, il faut que tu donnes un objectif que tu vas essayer de toutes tes forces d'atteindre. Mais ce n'est pas ça le but premier. C'est quand tu vas être dans le trouble là, les genoux à terre, il va y avoir des choses nouvelles qui vont apparaître. Puis j'en ai besoin de ça.
Puis, ben, c'est là que je veux t'amener. Ça amène quoi, ça? Parce que là-dessus, moi, je te suis, je suis un peu de même aussi. Tu sais, j'aime le petit travail sur soi puis le fait de jamais lâcher ce morceau de viande-là. Mais je connais des gens qui me disent de temps en temps, à basse échelle, on s'entend, voyons, qu'est-ce que ça m'amène au bout du compte? Tu sais, je vais travailler, m'offrir ma vie, mais pourquoi je ferais un grand travail sur moi-même constamment puis je tenterais de me mettre inconfortable pour découvrir des nouvelles affaires sur moi? Qu'est-ce que ça t'amène au bout du compte?
Bien, c'est qu'il y a des plaisirs qui s'insèrent là-dedans. C'est pas juste la souffrance, là. Imaginez un instant, là, un coucher de soleil sur un désert infini avec un cratère qui a 4 milliards d'années, puis vous êtes au-dessus de ça. Vous volez au-dessus de ça. Avez-vous une idée du paysage que c'est ça? Puis c'est pas sur Google, là. Vous êtes là pour vrai, puis vous parlez avec votre femme, puis votre conjoint, vous êtes là. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi ça? C'est comme être sur une autre planète. Puis on peut vivre ça tous les jours. Combien ça vaut, cette expérience-là?
Ah, oh, mon Dieu.
C'est à cause des gars
Ça vaut
comme
tout.
toi que ma blonde m'en demande plus tout le temps, Guillaume. C'est à quelle hauteur vous allez
Il est
voler,
là pour
Pepper?
toi.
Ouais. Quelle hauteur vous
À
allez
quelle
voler?
hauteur?
Ouais.
Bien, on va s'arranger pour rester dans des classes aériennes de classe G, pour ne pas
Ouais.
avoir de troubles avec aucune tour de contrôle, puis les zones protégées. Mais je dirais entre 500 puis 10 000 pieds, on peut aller jusqu'à 13 000 pieds si on veut, là, juste à la limite de l'oxygène, on peut être extrêmement haut.
Wow. On vous souhaite un bon voyage en sécurité. Amusez-vous,
Ah oui.
découvrez plein de paysages.
Puis faut que
Puis...
tu nous en
Oui,
parles quand tu reviens.
exact. Voyez le plus possible de coucher de soleil en